Oui, notre invitée Valérie Andanson, elle est porte-parole de la Fédération des enfants déracinés d'outre-mer. On va parler de ce fameux dossier des enfants de la Creuse, puisque Amnesty International s'est emparé du sujet et a publié une chronique à ce sujet, chronique rédigée par Blandine Lenoir, qui est actrice, réalisatrice et scénariste. Bonjour Valérie Andanson.
Oui, bonjour Monsieur Gélin.
Bonjour, et c'est justement vous, Valérie Andanson, que Blandine Lenoir est allée rencontrer et interroger. Elle est partie de votre propre histoire personnelle parce que vous faites partie de ces plus de 2000 enfants réunionnais hein, déportés dans l'Hexagone. Il s'agissait, je rappelle, de repeupler des régions victimes de l'exode rural. On pense évidemment, et c'est pour ça que on a donné ce nom-là à la Creuse, mais il y a aussi eu d'autres départements hein, qui ont vu ces enfants arriver. Et donc, Blandine Lenoir part de votre propre histoire personnelle. Vous avez 3 ans, vous êtes à La Réunion dans les années 60, et du jour au lendemain, votre vie va complètement changer.
Oui, je fais partie des. Mon parcours fait partie des 2015 parcours, et c'est vrai que quand j'ai rencontré Blandine Lenoir, qu'elle m'a proposé de m'interviewer sur mon histoire, j'ai tout de suite dit oui parce que Amnesty International, c'est quand même quelque chose de très important. Et oui, bon, moi, je suis partie à l'âge de 3 ans, mais dans mon histoire, c'est toute la fratrie est partie.
Oui.
C'est-à-dire que nous étions 6 à partir.
Vous aviez 5 frères et sœurs, oui.
Voilà, voilà. Donc, arrivé à Guéret, nous avons tous été séparés. Et bon, voilà. Bon, moi, je me suis retrouvée dans une famille d'accueil maltraitée pendant 4 ans. Et après, j'ai été adoptée à l'âge de 7 ans. Bon, c'est vrai que l'adoption, ça a été quelque chose d'extraordinaire pour moi parce que j'ai connu l'amour. Le seul inconvénient, c'est que j'ai quand même vécu dans le mensonge, puisque quand on est une petite fille bien bronzée, avec des cheveux crépus, et que les parents sont blancs, on se demande quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est qu'à l'âge de 16 ans que j'ai appris toute mon histoire, et c'est-à-dire que je croisais mes frères et sœurs dans Guéret sans savoir qu'ils étaient mes frères et sœurs. Voilà, et donc j'ai un frère qui s'est suicidé à l'âge de 32 ans, ne supportant pas cette tragédie, et j'ai une grande sœur qui est en psychiatrie régulièrement.
Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé à 16 ans? Quelqu'un est venu vous voir, ou c'est dans votre propre famille adoptive que vous avez appris votre histoire?
J'ai appris mon histoire par hasard dans ma famille adoptive parce que je suis tombée sur un document qui prouvait que j'étais adoptée, que j'avais un autre nom, un autre prénom, un autre lieu de naissance. Et ça a été pour moi un véritable tsunami. J'avais 16 ans.
Ça veut dire que puisque vous avez été adoptée par une autre famille, cela veut dire que vos parents... Vos vrais parents, si j'ose dire, ont perdu leur statut de parents.
Mes parents biologiques?
Biologiques, oui. Tout à fait.
Oh là là, mes parents biologiques, c'est une autre histoire. Vous savez, j'ai appris que ma maman était décédée très jeune, et mon papa biologique, c'est un peu compliqué. Donc oui, en fin de compte, dans cette histoire, ce qui est incroyable, c'est que ces enfants réunis ont été considérés nés sous X, alors que c'était faux. Et qu'en fin de compte, après, nous avons appartenu à l'État. Et donc, après, on fait ce qu'on veut de nous.
Vous aviez le statut de quoi? Pupille de la nation?
On avait le statut de pupille de la nation. Et c'est ça qui est quand même assez, assez grave, parce que la plupart des enfants avaient encore leurs parents.
C'est ça, parce que quand on devient pupille de la nation, c'est en général, voire systématiquement, quand les parents décèdent.
Normalement, mais voilà, de toute façon, c'est surtout le fait qu'on était considéré né sous X. Vous vous rendez compte, moi, dans mon cas, là, je vis avec une fausse identité. Il y a une falsification d'état civil, c'est-à-dire que aujourd'hui, je suis née à La Brionne, alors qu'en réalité, je suis née à La Réunion.
D'ailleurs, vous le dites très bien, justement, entre vos 3 et 7 ans, ces 4 années d'enfer, les 4 premières années que vous avez vécues en métropole, dans une famille où il y avait un monsieur extrêmement violent, vous dites, j'étais une petite fille qui n'existait pas.
Oui, tout à fait, j'étais dans un autre monde. C'est-à-dire que, pour moi, j'étais dans un autre univers, je n'existais pas.
Il y a à la fois cette inexistence juridique, parce que quelque part, c'est vrai ce que vous dites, vous n'avez pas d'existence juridique au sens légal du terme, même si ça a été fait comme ça. Et puis, au niveau psychologique, peut-être une une absence d'individualité, quoi, en fait.
Vous vous rendez compte, l'identité ? Je ne sais pas qui je suis, en fin de compte. Je suis creusoise d'adoption, réunionnaise d'origine, mais en fin de compte, je me suis dit, ouf, moi, ce qui me manque, c'est mon identité. Et mon combat personnel, c'est de retrouver mon véritable nom.
Ouais. Il y a même eu, à un moment, il y a même eu, dès le début, cette négation de votre créolité. Il y a un passage dans cette publication d'Amnesty International où vous expliquez que jusqu'aux cheveux, il s'attaquait aux cheveux pour faire disparaître cette créolité que vous avez encore en vous.
Ça, c'est mes parents adoptifs, et c'est vrai, c'est une anecdote que je dis souvent, c'est que tous les mois, j'allais chez le coiffeur pour me faire tirer les cheveux. Et donc, mes parents adoptifs, ils avaient vraiment l'intention de m'effacer complètement de mes origines réunionnaises. C'est-à-dire, on m'a changé mon nom, mon prénom, mon lieu de naissance, et je suis aujourd'hui effacée des registres de la Réunion.
Donc ça a été une action volontaire de la part de vos parents adoptifs ?
Oui, je pense. Oui, c'est une action volontaire. Et il n'y a pas que. À mon avis, il y a quand même pas mal. Vous savez, pour en arriver là, il y a des administrations qui sont, je pense, complices, parce que c'est pas possible. On peut pas faire ça comme ça.
Tout effacer du jour au lendemain.
Voilà, tout à fait.
Parce que s'il y avait, c'était selon vous le sentiment qui motivait cette action-là, c'était lequel de la part de vos parents
Peut-être la pression justement de l'administration, la pression la pression populaire, on va dire entre guillemets, en métropole qui, au cours des années 60, était un petit peu nier la créolité des autres et nier qu'il y ait une autre France qui soit plus colorée, quoi.
Bien sûr que c'est de la pression du gouvernement de l'époque, mais vous savez, c'est une affaire d'État, c'est politique, hein. Ce déplacement, cet arrachement, et je le dis, hein, nous avons été transférés comme des objets.
Oui.
C'est un véritable vol d'enfants. Et c'est pour ça que je suis une grande militante et que je travaille au sein de la FED, et je vous expliquerai un petit peu quels sont nos objectifs.
Oui, bien sûr.
Mais c'est vrai que quand j'ai rencontré Blandine Lenoir, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Elle a vraiment été très intéressée par notre histoire, elle est très intéressante, et on voit à quel point ça l'a bouleversée.
Alors, quelles avancées cela a représenté dans votre parcours personnel, cet intérêt particulier de cette femme, et puis d'Amnesty International aussi, puisque vous le disiez, c'est une grosse machine.
Ah bah écoutez, au niveau national et international, ça permet de faire connaître encore plus cette histoire. Et les médias ont un rôle important. C'est pour ça que je vous remercie de m'interviewer, parce que les médias ont un rôle important pour qu'on puisse faire connaître encore plus cette histoire. Parce que nous, ce que nous souhaitons, c'est que ce qui nous est arrivé, ce passé, puisse servir aux générations actuelles et futures pour que plus jamais ça.
Les réunionnaises et les réunionnais qui nous écoutent en ce moment même peuvent appeler 02 62 23 4 5 6 7 pour dialoguer avec Valérie en Danson qui est en métropole justement. Est-ce que votre rapport à la Réunion depuis notamment que beaucoup de gens, de plus en plus de gens s'intéressent à cette histoire, est-ce que votre rapport à la Réunion a évolué et d'ailleurs j'imagine quand vous avez quitté la Réunion à 3 ans, vous avez peu de souvenirs de ces années-là. Est-ce que vous avez fait très rapidement la démarche, enfin dès que vous avez été au courant de votre histoire à 16 ans, la démarche de revenir vers vos racines ?
Oui, quand j'ai eu 16 ans, j'ai après su cette histoire, j'ai fait ma vie et à un moment donné, j'ai décidé de repartir à la Réunion. Donc j'ai fait un voyage à La Réunion et ce premier voyage, ça a été un véritable déni pour moi. Je suis revenue en métropole et à l'âge de 40 ans, j'ai décidé d'aller m'installer à La Réunion avec mes enfants.
Pardon, déni, c'est-à-dire quand vous êtes allée la première fois à La Réunion, le choc a été tel, le traumatisme était tel que...
Oui, C'est-à-dire que quand on retourne sur son île au bout de certaines années d'exil, c'est pas si facile que ça. Et je laissais une maman des parents adoptifs qui refusait complètement ce contact avec ma nouvelle famille. Et ça a été pour moi quelque chose de difficile à vivre parce que je n'arrivais pas à me situer. Donc ça a été un déni. Je suis arrivée à La Réunion, j'ai vu mon île, mais ça n'a pas été un véritable coup de cœur. Voilà, c'était pour moi.
Du fait aussi peut-être que vous aviez des parents adoptifs, qu'est-ce qui déterminait, et est-ce qu'ils ont changé, est-ce qu'ils ont évolué eux-mêmes, vos parents adoptifs, dans vos rapports avec La Réunion ?
Mais pas du tout. C'est-à-dire que mes parents adoptifs ne voulaient absolument pas que j'aie des contacts avec mon île. Ils voulaient absolument que j'efface
Parce qu'ils imaginaient peut-être que ça allait vous faire plus souffrir qu'autre chose, ou pour une autre raison.
Ma maman adoptive me dit j'ai fait ça par amour pour toi, je peux le comprendre, attention. Mais aujourd'hui, je dirais aux parents qui adoptent des enfants, ne mentez pas à vos enfants. Parce que c'est dur, hein, c'est dur quand on a vécu pendant des années de mensonges, de découvrir une vérité si. Surtout quand on a des questionnements, quand on se dit qu'on est bronzé, tout ça, que c'est pas en semblant, c'est compliqué. Donc, ils avaient cette envie de peut-être par m'avoir que pour eux, quoi. C'est ça, être très, peut-être possessif, mais c'est là j'ai eu du mal quand même. J'ai ressenti de la colère et je ne comprenais pas pourquoi ils voulaient absolument m'effacer de mes origines à ce point-là.
L'objectif du gouvernement à l'époque et de Michel Debré, hein, c'était de repeupler certains départements métropolitains. Est-ce qu'ils sont arrivés à leur objectif ? Visiblement non, puisque le département de la Creuse reste quand même un département métropolitain avec peu d'habitants.
Donc, ça n'a strictement cette histoire.
En plus, Paris manquait, on va dire.
Oui, Paris manquait, ça n'a strictement rien réglé. C'est-à-dire que c'est le trop-plein vers le trop-vite, trop de démographie à La Réunion, pas assez dans les départements ruraux de la métropole. Une démographie galopante, mais ça n'a rien réglé. Ouais. Puisque en Creuse, la Creuse se vide. C'est vrai qu'il reste encore des Réunionnais dans la Creuse, mais on dit les enfants de la Creuse, mais ça concerne 84 départements toute la métropole.
C'est ce qu'on disait au début de cette émission, on dit les enfants de la Creuse, mais beaucoup de départements sont concernés, justement.
Voilà, 84 en tout.
Il y a un tissu, un réseau des enfants de la Creuse, là-bas en métropole, qui s'est créé. Quels sont vos rapports avec les gens qui ont vécu la même histoire que vous? Est-ce que ils sont tous dans la même démarche que vous? Est-ce qu'il y en a certains qui veulent qu'on mette une chape de plomb sur cette histoire?
Tout à fait, il y en a qui ne désirent pas que l'on parle de cette histoire, et puis je peux comprendre, hein, de toute façon. Mais j'ai vécu dans la Creuse pendant 40 ans, donc j'ai connu la plupart des Réunionnais. On a fait des soirées créoles, mais c'est vrai qu'une partie de ces ex-mineurs n'ont pas envie de continuer, de remuer cette boue, si on peut dire. Mais il y en a d'autres, attention, qui ne savent encore pas qu'ils font partie du dispositif. Hein. Il y en a qui sont décédés, il y en a qui sont gravement malades. Donc c'est pas simple.
Là encore, l'État n'a rien fait encore aujourd'hui pour prendre ce dossier en main et justement informer toutes les personnes concernées de leur histoire.
Et oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a certains ex-mineurs, encore récemment, qui se sont rapprochés de la fédération pour nous dire « mais je crois que je fais partie de ce dispositif ». Et en fin de compte, oui, ils font partie de ce dispositif, dont une qui va venir à La Réunion en décembre avec nous. Et c'est quelque chose, vous vous rendez compte, ces ex-mineurs qui apprennent de par nos témoignages télévisés, radiophoniques, qu'ils font partie du dispositif. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas. Surtout dans les enfants qui ont été adoptés.
Et est-ce que certains, au contraire, en savent plus, en savent beaucoup sur leur histoire et ont pu avoir la main sur toutes les informations qui les concernaient depuis leur départ jusqu'à aujourd'hui?
Peut-être grâce aussi avec leur famille, grâce à leur famille adoptive.
Ouais. Les dossiers. Donc, vous savez qu'une commission nationale a été mise en place en 2016, qu'elle a rendu son rapport en 2018. Et donc, cette commission a transmis une liste des victimes qui se trouve actuellement au ministère des Outre-mer. Nos dossiers, ces dossiers, donc, là, maintenant, nous avons donc accès à nos dossiers. C'est une réelle avancée.
La chape de plomb commence à se soulever. Il n'y a que l'État qui peut faire ça, finalement.
Tout à fait. Donc, c'est vrai que depuis cette commission nationale, on a accès à nos dossiers qui se trouvent au conseil départemental de La Réunion, ouais. Certains dans les foyers de la métropole. Par contre, le problème, c'est qu'il y a des dossiers qui ont disparu. Il y a des dossiers qui ont brûlé. Donc, tous les ex-mineurs n'ont pas eu de réponse à leurs questions. Et aujourd'hui, on va se battre avec notre avocate pour qu'on puisse vraiment, que ces ex-mineurs puissent avoir leur dossier en main, parce que c'est pas normal.
On parle des enfants de la Creuse avec Valérie Andanson, et je vous propose, Valérie Andanson, de partir en direction du Standard, puisque Marc voulait réagir sur ce sujet. Bonjour Marc.
Bonjour à toute la Réunion, bonjour à votre équipe, et bonjour à Valérie. Vous me faites très très plaisir, vous savez que c'est quelque chose qui me tient à cœur, et quand je vous entends parler, vous m'avez fait penser à mon fils, puisque ma femme ma première femme était créole, la deuxième aussi, et mon fils est métisse, et quand il vient me voir, il me dit la même chose que vous. Je viens rechercher ma créolité. C'est très important, ça. Et c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et je vous assure, vous avez très, très bien parlé, bien expliqué le problème des enfants de la Creuse. Ma première femme était, elle, c'était pas une enfant de la Creuse, c'était une enfant du Midom aussi, où on pourrait parler, où ces créoles qu'on a envoyés en France, et je parle de ce que je sais, puisque ma femme faisait partie, avait été envoyée par le Midom, avait été envoyée chez un médecin, où elle prenait son boulot le matin à 7h, jusqu'à 7h le soir, elle travaillait du vendredi, du lundi au samedi, elle avait son dimanche de repos, là vraiment. C'est pour ça que
elle a vécu ce déracinement, même si c'est pas peut-être de l'ampleur. J'imagine qu'elle est partie adulte, de l'ampleur des enfants de la Creuse, mais elle a vécu ce même déracinement, en fait.
Elle a vécu ce même déracinement. C'est pour ça que je pense que c'est très très bien les enfants de la Creuse, et derrière les enfants de la Creuse, peut-être qu'un jour on parlera aussi des enfants du Mubidum. Parce que là, je crois qu'il faut parler de tout ça. Parce que à un moment donné, on ne peut pas se voiler la face et ne pas regarder ce qui s'est passé. Parce que moi, je comprends la dame, j'assure que quand j'écoutais Valérie parler, à certains moments, je comprends ce problème de cheveux tirés, comme elle dit. Oui. Je vois ma première femme, elle était sans arrêt aller chez le coiffeur, il fallait qu'elle tire ses cheveux. Parce que non, mais vous comprenez, ces choses qui sont... Ah, ça vous refroidit le dos. Et Valérie, encore un grand merci. Vous avez vraiment bien expliqué le problème des enfants de la Creuse pour ces jeunes qui ont été adoptés, et adoptés pas toujours pour le meilleur des cas.
Valérie Andanson, porte-parole de la Fédération des enfants déracinés des Drômes.
Oui, en fin de compte, c'est vrai que Michel Debré s'est appuyé sur le Bumidom pour s'attaquer aux enfants. Mais bon, le Bumidom, c'était les adultes consentants, mais ils ont vécu un déracinement. Et c'est vrai qu'il faudrait voir aussi pour un combat pour ces jeunes adultes qui sont partis dans des conditions aussi très très difficiles. Et après, s'attaquer aux enfants, c'était vraiment mettre, une situation, une sorte de bras armé. Voilà, on décide de prendre tous ces enfants, parce que si vous saviez comment ça s'est fait aussi, c'est les assistantes sociales qui sillonnaient l'île vers les familles pauvres, ça c'est certain, faisaient pas signer des papiers aux parents qui bien souvent étaient illettrés.
Vous d'ailleurs, votre mère biologique a signé avec l'empreinte de son pouce.
Voilà, et puis bon, l'histoire n'est pas claire. Voilà. De toute façon, avec l'avocate, elle est en train d'étudier chacun de nos dossiers et je peux vous assurer que c'est vraiment, vraiment pas clair. Il y a des zones d'ombre incroyables.
Vous vous intéressez d'ailleurs à ce sujet, parce qu'il n'y a pas eu que les enfants de la Creuse, malheureusement. Il y a eu aussi les avortements forcés de Saint-Benoît. Un dossier qui, selon vous, est de la même teneur que les enfants de la Creuse.
Peut-être pas de la même teneur, mais c'est une autre affaire, un autre scandale, hein, parce qu'on peut dire que c'est un scandale aussi.
Parce que l'idée, c'était de dire, selon les politiques à l'époque, qu'il y avait une croissance démographique qui n'était pas maîtrisable à La Réunion. Et donc, la solution qu'ils avaient trouvée, c'était des avortements forcés. Disons qu'on ne disait pas forcément toute la vérité aux patientes, quoi.
Tout à fait.
De ce qu'allait leur arriver.
Et la peur de cette démographie galopante, de se dire ces jeunes qui sont là, ces enfants qui sont là, et qui plus tard vont certainement peut-être devenir des délinquants, et puis ça va faire des émeutes, je ne sais pas, mais oui, bien sûr, c'est la peur de cette jeunesse qui a fait que le gouvernement a fait vraiment des scandales. Des scandales.
On va si Marc veut rester à l'antenne, il y a pas de problème. On va prendre Max. Je suis obsédé par les masques en ce moment, hein, tout le monde. Max qui est à l'antenne et qui voulait également réagir.
Oui, bonjour
Max.
Et à Pierre de Réunion. Bonjour La Réunion. Je suis vraiment comment dirais-je, touché.
Ému.
Dire cette dame. Je suis compatible toute sa tristesse, mais il ne faut pas oublier. Moi, j'étais un enfant...
Bah, c'est une combattante aussi, Valérie Anlançon, visiblement.
Moi, j'étais un enfant abandonné en 1962. J'ai reconnu mes parents en 1989. Et à 6 ans et demi, je buvais du rhum dans une famille alcoolique. Aujourd'hui, vous avez un petit journaliste en herbe. Je voulais me mettre un petit avis sur moi. Si aujourd'hui, j'ai tout réussi... Même mes enfants, personne ne m'a aidé, monsieur. En 79, j'ai passé un concours pour les LEP. Il me manquait un demi-point. Ça, vous pouvez demander tout le monde. J'ai mis à genoux, personne ne m'a aidé. Aujourd'hui, je demande à ces personnes qui ont grandi dans la Creuse, je suis peut-être 1000, 2000 ou 3000, ils sont partis. Parce qu'à La Réunion, moi j'ai fait une petite enquête, vous savez que je ne suis pas couillon. Moi j'ai fait une petite enquête à l'époque, dans les années 70 et 60, les parents ils faisaient 13 enfants. Moi-même, j'étais un enfant, j'ai grandi en route déserte au port, j'ai grandi dans la misère, ma maman adoptive buvait. En 73, elle est passée devant le juge des enfants, le juge a demandé, madame, un tel, je ne vous dirai pas le nom parce que maman vient de mourir, je vais blesser ma famille, pourquoi vous avez abandonné votre fils, madame? Il a dit, c'est couleur noire, couleur de peau.
C'est
encore une fois,
cette
négation de la cruauté. Hein.
Le racisme qui est présent dans les histoires.
Et couleur de peau. Et j'ai grandi d'une famille atroce. Mes parents adoptifs est mort en 71. En 73, j'ai passé devant devant l'assistance sociale, devant la justice. On voulait pas de moi, on voulait m'envoyer à la Creuse. Et moi, je voulais partir parce que j'ai grandi dans notre famille affreux. On me donnait pas la bouffe le matin. Le midi, le matin, un verre d'eau. J'ai parlé sur votre antenne. Aujourd'hui, on vous donne des paniers garnis, on se bat pour un panier garni. Moi, je partais à l'école avec un verre d'eau, trois petits morceaux boucanés, trois gifles dans la figure si on demande. Mais à La Réunion, c'est dit à madame, je suis vraiment touché par ces propos, mais à La Réunion, il y a des familles réunies, nous avons tellement subi des choses. Et moi, je suis apostrophé par cet effet. Et aujourd'hui, je dis à dame, je suis avec elle, je compatis. Ne baissez pas les bras. C'est pas Michel Debré. C'est nos parents aussi. Écoute-moi bien, monsieur le journaliste. C'est nos parents et faisaient des enfants, 13 enfants. Comment voulez-vous? Ils nous traînaient dans la rue. Moi, je buvais, hein, sans vous demander au port. Hein. La famille au port, route déserte, je buvais à 6 ans et demi, tous les matins.
Et Max, oui. À l'époque, au début des années 70, enfin tout au long des années 70, vous avez entendu parler de cette histoire des enfants de la Creuse. Vous saviez qu'il y avait des enfants qui étaient dans la même situation que vous l'État français pour
être... parce que auparavant, si vous faites une enquête, avait un pupille à Saint-Denis, à titre brûlé. Elle avait une petite emprise, avait les instances sociales. On voulait m'embarquer pour m'emmener à la Creuse. Et là, une famille m'a pris, mais là, vraiment, j'ai passé d'une famille vraiment. C'est ça que je veux dire à toutes les personnes qui sont parties à la Creuse. Faut pas imaginer, notre famille était pauvre. Michel Debré, lui, a essayé d'évacuer dans d'autres pays. dans d'autres continents comme dans l'Hexagone. Et mais là, il y a des familles, ils ont fait souffrir aussi, comme moi. C'est pas la faute de Michel Debré, c'est un contexte des familles qui avaient 13 enfants. Et je demande, martelé, fais comme moi, monsieur, va vers l'avant, j'ai pas porté plainte à qui que ce soit. Aujourd'hui, je suis pompier, agent de prévention, je viens de décrocher, là, monsieur, un concours éducation nationale, agent de sécurité, par Vailaïdom Marimoutou signé. Alors, je vous dis, regarde bien, la France n'est pas le dernier, mais il y a des parents qui nous ont fait souffrir. Ces parents, s'ils ont des biens, il faut vraiment l'attaquer. Il ne faut pas critiquer la 5e République. La 5e République, la France, c'est un beau pays. C'est les gens qui nous ont fait souffrir, ils vont mériter ça. Dieu, il va donner des coups de fouet. Mmh. Moi, je dis aussi, aujourd'hui, j'ai, comme je vous dis, mon beau-fils est sous-préfet, ma fille est gendarme, mon garçon, ils ont réussi. Mais moi, personne m'a aidé dans ma vie. Personne ne m'a jamais donné 5 euros. Et c'est pour ça que je vous aime, votre radio. Monsieur Violin, je vous aime bien, vous connaissez déjà vu, je suis quelqu'un de très simple, même aujourd'hui je suis fonctionnaire. Je demande à toutes les personnes de la Croix, avant attaquer le président de la République ou bien la ARS, il faut y penser. Nos familles aussi, nos parents, ils ont fait trop d'enfants à cette époque. Mmh. Et vous verrez, j'ai raison. J'ai raison parce qu'aujourd'hui, moi je suis très heureux, mais même j'ai pas connu mes parents. Maman, ils viennent mourir le 24 janvier. Et moi aujourd'hui, maintenant, je suis seul au monde. J'ai plus ni papa, ni maman, ni soeur, ni frère. Je suis tout seul, monsieur.
Merci Max, en tout cas, pour votre témoignage. Max, qui, comme Valérie Andanson, est un vrai combattant, on le connaît et il intervient régulièrement sur notre antenne. Valérie Andanson, justement, l'aspect pardon, Max l'a évoqué à un moment. Est-ce que vous avez pardonné? Est-ce que vous avez pardonné à l'État français? Est-ce que vous avez pardonné à vos parents biologiques? C'est important, cet aspect aussi qu'évoquait Max. Est-ce que vous avez pardonné aux gens qui vous ont accueilli avec ce monsieur violent là dans la Creuse, vos 4 premières années dans la Creuse?
La violence, on ne peut pas pardonner, ça c'est certain. Par contre, pardonner à l'État, bon, ce qui a été fait est fait. Pardonner à ma famille d'adoption, bien sûr. Je pense qu'il faut maintenant aller au-delà de tout cela. Parce qu'il faut trouver le chemin de la résilience. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, ce que l'on souhaite, et nous avons un grand rendez-vous le 5 décembre à La Réunion, nous allons faire une conférence de presse. Nous souhaitons aller vers l'île, vers nos origines pour nous réconcilier avec notre histoire, les Réunionnais et La Réunion. Parce que je trouve qu'à La Réunion, il y a encore beaucoup de déni. Il y a beaucoup de culpabilité et il faut passer au-delà de cette culpabilité.
Marc, peut-être un mot là-dessus?
Je partage complètement. On ne peut pas en vouloir, on ne peut pas en vouloir aux hommes politiques, mais nos hommes politiques sont quand même là pour dénoncer et faire repentance de ce qui a été fait. Hein. C'est pas eux les fautifs, mais ça a quand même été fait par la politique de la France. Et je pense que c'est vrai que moi je n'en veux pas aux parents aussi, parce que vous savez, il y a des parents quand vous avez 12-13 enfants et que vous avez du mal à vous assumer, on ne peut pas leur en vouloir aux parents.
Quand on ne se respecte pas soi-même, pour respecter les autres, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Ouais.
C'est beaucoup plus compliqué. Hein. C'est pour ça que c'est... Je vous assure, il faut continuer à se battre, surtout, comme me disait au démarrage Valérie, pour plus jamais revoir ça. C'est ça le vrai problème. Ne plus jamais revoir ça. Parce que c'est tellement... Moi, je vous dis, je suis à La Réunion parce que je dis, pour moi, j'ai toujours... La première fois que je suis venu dans cette île, je suis tombé amoureux de cette île comme on tombe amoureux d'une femme. J'adore cette vrai. Île, mais...
Et on est nombreux à partager ça, Marc, avec vous.
Non, c'est vous comprenez, c'est là le problème. Et c'est vrai que je pense que cette bataille qu'a engagée Valérie, après, on va parler aussi... on va parler du Bimidom. Et surtout, cette chose qui m'appelle, c'est ce que les gens peuvent porter sur une couleur. Mais c'est affolant. Mais comment l'homme peut se regarder dans une glace et ne pas accepter que son voisin n'a pas les mêmes couleurs que lui?
Valérie, en dansant peut-être.
Oui, c'est ça.
Oui.
Juste par rapport à cette notion de racisme, elle est présente dans chacune des histoires évoquées, ouais. Là, dans l'antenne, la ouais. vôtre, celle ouais. de Max, Marc qui en parlait également avec son épouse. On en fait quoi de ça? C'est vrai que ça trouble aussi les recherches, le travail, et ça met aussi une difficulté supplémentaire à cette histoire.
Et d'ailleurs, il y a une expérience qui est sortie il y a quelques temps, moi j'ai vu il y a quelques jours sur Internet, où on demandait à des enfants par rapport à des poupées de choisir la plus gentille entre la poupée noire et la poupée blanche, et c'est vraiment impressionnant, parce que c'est vraiment des gamins de 4-5 ans qui choisissent systématiquement la plus gentille. Ils considèrent que c'est la poupée blanche et pas la poupée noire. Voilà, tout un tas une expérience aussi sur voilà, on demande aux enfants à ton avis quelle est la poupée la plus sale. Pas systématiquement, mais très régulièrement, voilà, c'est toujours la poupée noire. Donc vraiment, il y a peut-être aussi un énorme chantier à engager dès le plus jeune âge, hein, puisque quand on voit les réactions, c'est des réactions racistes inconscientes de la part des enfants, puisqu'ils sont pas encore en âge de comprendre tout ça. Mais voilà, c'est des images d'Épinal aussi qu'ils ont dans la tête.
C'est vrai que le racisme a été très présent dans les années 60, est encore présent aujourd'hui, et ce n'est pas normal.
Juste avant de prendre Claude sur le standard, vous disiez tout à l'heure, Valérie Andanson, que vous êtes venue une première fois à La Réunion, que voilà, ça c'est pas, il n'y a pas eu le déclic. Vous êtes retournée en métropole et vous êtes revenue à La Réunion, et cette fois habitée à La Réunion. Oui. Est-ce que ça a changé quelque chose?
Oui, ça a changé quelque chose. Bon, je suis restée 9 ans. Hein,
donc, ah oui, quand même.
Voilà. Et là, mon but, c'était vraiment, je frappe aux portes et je veux comprendre cette histoire d'adoption, je veux comprendre cette histoire d'exil. Et par contre, ça a été quand même un échec parce que les portes sont restées fermées. Étant donné
On était dans quelles années, là, à peu près?
Écoutez, il y a à peu près...
Déjà dans les années 2000, non?
Oui, 2000. Hein,
d'accord, 2000. Donc on parlait déjà quand même de ce dossier des enfants de la Creuse.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que plusieurs fois, je suis allée à la mairie de Bois-de-Nèfle pour récupérer mon acte de naissance original. L'employée l'avait devant les yeux. Elle m'a dit, je ne peux pas vous le donner. Pourquoi? Parce que je suis née dans la Creuse. Donc ça a été quelque chose, mais bon, ça a été très 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 compliqué. Je peux vous assurer que j'ai insisté, j'y suis allée des dizaines de fois. J'ai écrit au procureur de la République, j'ai écrit au président de la République, j'ai remué ciel et terre. Cette histoire dérange quand même. Hein.
Ouais. Valérie Andanson, je vous propose de dire au revoir à Marc.
Au revoir Marc, et merci beaucoup. Pour votre
merci à vous, revoir, et puis de prendre Claude à l'antenne. Bonjour Claude.
Oui, bonjour à vous, bonjour à tous. Et je voulais demander à Madame Valérie, je ne considère pas comme un combat, c'est plutôt une recherche. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez aboutir à quoi?
Très bien. Alors moi, ma quête personnelle, c'est retrouver ma véritable identité. Quand je suis partie de La Réunion, je m'appelais Marie-Germaine Périgogne, née à Bois-de-Neuf-Saint-Paul, et je veux redevenir Marie-Germaine Périgogne, née à Bois-de-Neuf-Saint-Paul.
D'accord.
Voilà. Et ce sont des recherches, mais c'est surtout un combat, parce que c'est pas le combat, c'est pas que pour moi, c'est pour tous les enfants exilés. C'est pour aider ces enfants à revenir sur leur île, à redécouvrir leur famille, des fois 50 ans après leur premier exil. Et bon, c'est... Voilà, donc c'est un véritable combat. Continuer dans l'avenir.
Le combat. Allez-y Claude, je vous en prie.
Le combat pour vous, est-ce que c'est parce que dans un premier temps, vous avez souffert, hein, parce qu'on parle de maltraitance, c'est ça, hein?
Oui,
et ensuite, vous avez été adopté, donc vous avez raconté ce qui s'est passé. Mais malgré tout, est-ce que c'est vos nouveaux adoptants, je dirais, vous ont donné un moyen d'avoir un avenir?
Attention, c'est ce que je dis, j'ai été aimée, j'ai eu de l'éducation.
À partir de 7 ans, après cette famille horrible, voilà. de 3 à 7 ans, à partir de 7 ans, vous avez été adopté par des gens aimants. C'est important.
Oui, tout à fait. La seule chose que je regrette, c'est que j'ai vécu dans le mensonge, puisque c'est tout. Mais sinon, bon, attention, dans la Creuse, j'ai subi beaucoup de racisme.
Hein. Oui.
Beaucoup de racisme, parce que j'étais dans une école où il n'y avait que des petits blancs, j'étais la seule petite noire. Oui, dans le village, j'étais la seule petite noire. Et ça a été extrêmement dur à vivre.
Oui, oui, mais je dirais ça, c'est, on a tous vécu, on le vit encore, hein, c'est d'humanité, c'est comme ça malheureusement.
Oui, tout à fait, mais, tout à fait.
Moi, ce que je voulais dire, je suis vraiment content d'avoir écouté Max. Parce qu'en fait, quand on parle des enfants de la Creuse, on a tendance à accuser le gouvernement.
Et oublier la responsabilité des parents.
Exactement, parce que en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, bah oui, notre histoire, c'est ça. On faisait pas mal d'enfants, mais on pouvait pas les nourrir. Et Max vient de dire la vérité.
On était dans des situations graves, c'est certain.
Oui, voilà.
Valérie Andanson, vous aviez cinq frères et sœurs, hein, je rappelle, et vous viviez dans la misère.
Dans la misère. On était dans des situations graves. Il y avait des enfants qui étaient avec des parents violents, des parents, voilà. On était dans des situations graves, c'est certain.
Ce qui ne justifie pas l'arrachement des enfants à leur famille biologique.
Il faut réhabiliter les familles réunionnaises. Nous sommes des victimes, nous les enfants, dit de la Creuse. Les familles réunionnaises sont des victimes. Les familles d'adoption en métropole sont des victimes. Il faut absolument qu'on réhabilite tout ça.
Faire un peu la lumière sur tout ce qui s'est passé, mais comme disait Max, son histoire est importante. Probablement, les familles d'avant aussi étaient presque d'accord que quelqu'un s'en occupe parce qu'ils ont trop d'enfants, et même des fois ils donnaient à la tatie, etc. C'était notre histoire, en fait. Hein. Je veux dire, là, accuser les uns et les autres. Écoutez, regardez bien ce qui se passe aujourd'hui au niveau du gouvernement par rapport à ce qui se passe par ce virus. On tâtonne, on ne sait pas comment faire parce que c'est nouveau, etc. À l'époque, c'était ça. Michel Debré, quand il est arrivé, il a trouvé une pauvreté énorme. Et il a essayé de faire, même par le Bumidom, essayer d'envoyer des gens. Parce qu'il faut le dire, il y a des gens qui sont partis au Bumidom, qui sont retournés ici avec vraiment un bagage, un avenir, etc. Donc, je pense que il faut pas trop accuser ces gens-là. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, parce que en fait, si vous voulez, pour moi, Madame Valérie, je compatis à tout ça, mais je veux dire aussi que en parlant de tout ça à chaque fois et en accusant Michel Debré, on écabousse tout ce que Michel Debré a fait pour la Réunion.
Alors, on peut peut-être plus élargir à l'État, quelque part.
Il n'y a pas que Michel Debré.
Voilà,
c'est ça. Non,
c'était une politique étatique.
Tous les partis politiques de l'époque, les administrations de l'époque sont impliquées.
Si ça a pu se faire, c'est que de toute façon, il y avait un consensus aussi politique autour de cette question.
C'est une affaire politique. Je pense qu'au départ, c'était d'une bonne intention. On transfère ces enfants de la Réunion dans les départements ruraux. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de suivi. On a menti aux parents. Et c'est ça qui est grave. Vous vous rendez compte, on était considéré né sous X alors que c'était faux. Là, il y a c'est grave.
Alors, oui, justement, il y a quelque chose à rechercher.
Voilà,
c'est vrai, là, il y a quelque chose à rechercher. Maintenant, je peux vous dire, peut-être que je terminerai. C'est-à-dire que aujourd'hui encore, regardez ce qui se passe. Par rapport à ce problème qu'on connaît, on fait des annonces 119 appelés parce qu'il y a de la maltraitance des enfants. Vous voyez comment l'humanité tourne. C'est ça qui... Vous voyez, votre recherche est belle. Hein, il faut retrouver tout ça, il faut rechercher tout ça.
Et en parler.
Et en parler. Pour vraiment, ça, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on recommence à s'aimer, à s'entendre, à s'entraider, à faire une belle humanité, parce que c'est quand même beau ce qu'on vit. Et donc, il faut, à mon avis, aller là-dessus au lieu de... Bon, c'était un état des lieux à un moment donné. Et je pense que là, le travail, je termine là-dessus. Hein. Vous parlez des politiques qui étaient d'accord. Non, je vous dirais que c'est Michel Debré qui, en arrivant ici, a fait de la Réunion ce qu'elle est aujourd'hui. Les hommes politiques n'existaient pas. C'était des soumis. D'ailleurs, on a laissé faire. Vous avez parlé de ce qui s'est passé à Saint-Benoît et tout. Tout était possible. Hein, ils n'avaient pas d'indicateurs, ils n'ont pas de vision. D'ailleurs, ils n'ont même pas de vision ici jusqu'aujourd'hui. Si vous revenez, vous allez voir. Voilà. En tout cas, bravo pour votre recherche. Moi, ça paraît pas un combat, mais une belle recherche. Ouais. Et puis, établir ensuite quelque chose, un modus vivendi, comme on va dire, pour dire voilà, c'était le passé, c'était comme ça, c'est dommage, ça s'est passé comme ça, mais maintenant, traçons un peu cet avenir-là, pourquoi pas, comme quelqu'un disait, peut-être que vous avez retrouvé un peu de votre famille, etc., faire la lumière, parce que probablement, comme vous avez parlé du conseil départemental actuellement, le conseil général ou une instance, devait avoir l'historique de la famille des uns et des autres, des 84 départements, comme vous avez dit, et pourquoi on a emmené ces enfants-là, parce que quand même, quand on parle d'assistance sociale, c'était fait un petit peu administré, quoi. Hein. On faisait pas ça comme ça, on voulait pas les enfants. Enfin, voilà. En tout cas, c'est vraiment une performance pour vous. Je n'ose pas vous demander qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous faites dans la vie pour voir un peu votre parcours comme Max.
Ah ben écoutez, je suis une retraitée de la fonction publique, j'ai réussi, eh ben voilà. Hein, donc eh c'est ben vrai voilà. Que... Non, mais je me suis aussi, j'ai eu cette force de caractère hein, qui a fait
oui,
que,
oui, oui.
Voilà, malgré tous ces ah, ce oui, chemins voilà. Douloureux parcours,
voilà.
Mais c'est cette force, ça nous renforce.
Mais il y a ce manque, il y a ce vide encore, on a bien
ça
compris,
fait,
notamment
oui.
À travers votre nom, retrouver
oui,
votre
fait.
Identité, c'est d'abord avant tout retrouver votre vrai nom. J'imagine que vous avez fait des démarches là-dessus. Est-ce que les retours sont positifs?
Oui, ben pour le moment, c'est passé au journal officiel, donc j'attends la suite. Mais j'insiste beaucoup que ce combat que l'on mène serve aux générations actuelles et futures, le droit de l'enfant. On va travailler là-dessus.
Le droit de l'enfant,
proposer des lois. Il faut absolument que l'ASE puisse, que ça s'améliore, parce qu'il y a encore aujourd'hui trop de placements difficiles, des adoptions compliquées. Il faut changer tout cela.
Oui, mais il y a beaucoup d'enfants maltraités, surtout.
Bien
ça
sûr,
aussi,
Claude.
Le droit de l'enfant.
Il faut changer
tout ça,
c'est
grave.
C'est grave.
Le problème des enfants maltraités. Et évidemment, on en parle régulièrement sur cette antenne.
Oui, bien sûr.
Je vous dis au revoir, Claude. On peut peut-être.
Merci beaucoup. Hein, merci.
Au revoir, Claude. On peut peut-être terminer par la fin de la chronique de Blandine Lenoir. Donc, Blandine Lenoir qui a consacré une chronique aux enfants de la Creuse à travers votre histoire, Valérie Andanson, et qui est paru cette chronique sur qui a été publiée par Amnesty International. Blandine Lenoir dit « Les mots sont importants, l'État doit demander pardon et nous devons parler de crimes. Liberté, égalité, fraternité, ici l'institution a fait exactement l'inverse de notre slogan publicitaire, hein, nous, notre nation. Elle doit prendre, l'institution doit prendre ses responsabilités, demander pardon, reconnaître ses victimes et les soutenir dans leur combat. Au contraire, encore aujourd'hui, chacun de ses enfants devenus adultes doit se battre pour accéder à son dossier. Les enfants de la Creuse veulent un soutien concret, la création d'un centre de ressources qui pourrait centraliser toutes les demandes de victimes et de leurs descendants, évidemment, en quête d'aide juridique, psychologique ou administrative. Ils veulent un lieu de commémoration, une journée. Ils voudraient que leur histoire devienne tout à fait la nôtre en étant dans les livres d'histoire à l'école. Se taire, c'est comme innocenter le pays.
Valérie Andanson. Un dernier mot.
Donc c'est vraiment les quatre axes que l'on souhaite avec notre avocate, c'est donc obtenir les excuses officielles de l'État, créer des centres de ressources, un petit peu comme en prenant exemple sur le centre d'Izieux, adapter les programmes de l'éducation nationale pour inscrire cette histoire dans les manuels scolaires, et aussi ce que l'on souhaite, un point très nouveau et que je vais donc annoncer à tous les médias, c'est mettre en place une nouvelle commission. C'est-à-dire qu'il y a une commission nationale, on souhaite une nouvelle commission qui intégrerait le côté juridique et psychologique.
Merci beaucoup Valérie Andanson, donc porte-parole de la Fédération des enfants déracinés des départements et régions d'outre-mer. Merci beaucoup d'être intervenu sur cette antenne. Merci.
Et rendez-vous le 5 décembre à La Réunion, je compte sur vous.
Merci.